Fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see. Bonjour Eric Benzi.
Bonjour.
Vous êtes l'invité d'honneur de cette 8e édition du French Forum ici à La Baule, forum consacré à l'expérience client. Vous-même, vous êtes auteur, compositeur, producteur, arrangeur. Et marseillais.
Oui, tout à la fois. Je n'ai pas été tout d'un coup, mais effectivement, je fais tous ces métiers-là, oui.
Vous êtes un être composite.
Oui, c'est tout à fait. Voilà, ça s'est créé doucement, mais d'abord compositeur, ensuite auteur par la force des choses, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis arrangeur, réalisateur, ingé son et producteur.
Si on revient sur votre parcours, au tout départ, qu'est-ce qui vous a conduit vers la musique? Qu'est-ce qui a fait l'étincelle à un moment donné et qui a lancé le mouvement?
Alors, contrairement à beaucoup de gens, c'était pas du tout prévu que je fasse de la musique gamin. J'ai aimé ça, j'ai commencé assez tard la musique, vers 11 ans, enfin, à la MJC du coin. Enfin, et puis moi, jusqu'à 18 ans, j'étais prévu plutôt pour faire une carrière d'éducateur spécialisé. Donc ça n'avait rien à voir. Sauf que je faisais un groupe avec des potes à côté, et que petit à petit, ça a pris le pas sur le reste. Voilà. Donc en faisant des petits boulots, quand on quitte le domicile familial, qu'on fait coursier, chauffeur, livreur, tout ça, on s'aperçoit que c'est pas une carrière, donc on a envie de faire autre chose. Et à un moment donné, on se regarde avec les copains, on se dit, mais si on faisait ça sérieusement? Et donc le déclic est venu assez tard, où effectivement on a commencé à travailler dur, mais que vers 18 ans, quoi, quand on a quitté le domicile familial.
Et ce qui sous-tend que vous êtes quand même autorisé à aller au bout de la logique?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on se donne des contraintes, enfin des paliers, on se dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On est où? On est à Marseille. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, ça nous plaît vraiment. Si on poussait au bout, voir un peu jusqu'où ça va. Et petit à petit, ça s'est construit comme ça. Il y a eu évidemment le déménagement vers Paris, parce que tout était centralisé. Paris, donc, c'était quand même un moment, une étape importante à passer, quitter toute sa famille, ses amis, etc. Et puis après, petit à petit, se construire très lentement et très difficilement. Toujours en se donnant des étapes, en disant, bon, là, j'étais là, je vais où, jusqu'où je vais, est-ce que ça va, est-ce que ça m'arrête, voilà, c'est une construction, quoi.
Qu'est-ce qui vous a ensuite permis de vous produire, de prendre la route, travailler finalement avec les plus grands, comme Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Julien Clerc, Françoise Hardy, Florent Pagny?
En fait, c'est toujours pareil. C'est d'abord, moi, j'ai commencé dans un groupe de rock, donc j'ai donné l'essentiel de mon énergie dans les années 80 pour ce groupe.
Canada?
Le groupe s'appelait Canada, oui. Et ensuite, à partir du moment où on a réussi à atteindre le monde professionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit une chanson qui s'appelle « Moi les sirènes », qui a été un tube à l'époque, on rentre de plein pied dans le monde professionnel. Donc là, on fait des rencontres. On fait des rencontres quand on fait de la radio, de la télé. On commence à rencontrer d'autres artistes. Et puis en se professionnalisant aussi, on traîne dans des studios importants. Donc là, c'est là que j'ai commencé à... Évidemment, le groupe, l'économie du groupe ne suffisait pas à me remplir ni financièrement ni intellectuellement. Donc je me suis dit, tiens, si je commençais à écrire pour d'autres, si je commençais à faire des chansons pour d'autres personnes, si je commençais à réaliser, arranger pour d'autres chansons. Donc j'ai commencé ce système-là. Et puis une rencontre un peu décisive, effectivement, c'est avec Jean-Jacques Goldman, qui à l'époque nous avait proposé au groupe Canada de faire sa première partie de la tournée des arènes. Donc on a pu sympathiser et à un moment donné... Le groupe s'est arrêté, et c'est à ce moment-là que j'ai fait un album solo pour moi-même, qui a été numéro un top secret, donc tout le monde s'en foutait. Mais il y avait beaucoup, beaucoup d'idées dedans, plein d'idées d'arrangement, tout ça, qui ont beaucoup plu à Jean-Jacques. Et c'était l'époque où lui cherchait justement un peu à renouveler un peu son son, parce qu'il avait toujours fait ses chansons, il était au top de sa notoriété, mais il avait toujours fait des chansons basse, batterie, guitare, piano, simplement. Et puis il y avait tout ce monde de synthé, de boîte à rythme qui tournait autour, il n'avait pas accès. Donc il avait besoin d'arrangeurs. Naturellement, il a pensé à plusieurs arrangeurs, dont moi. Donc il y a eu une espèce de période d'essai sur une ou deux chansons. Et j'ai pris le job, voilà, parce que j'ai fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Après, effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Jean-Jacques sur un titre à l'essai, puis deux, puis un album, puis deux albums, là, le téléphone n'a pas arrêté de sonner parce que c'était plus facile. Dès qu'on fait des productions qui marchent, on a acquis une certaine renommée. Et donc là, c'est à partir de là que j'ai pu engranger des tas d'autres artistes.
Notamment Céline Dion.
Céline Dion, alors Céline Dion là, je peux l'avouer, c'est directement grâce à Jean-Jacques, puisque c'est lui qui a demandé expressément à Céline de faire un album pour elle, donc je faisais partie de l'équipe pour ça. Puis il m'a laissé gentiment en plus lui écrire des chansons, ce qui était sympa, sur des albums qui ont énormément marché.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous étiez quand même pionnier? Vous en aviez conscience? Le fait d'être justement sur ces synthés à l'époque, on rentrait dans une nouvelle ère qui a façonné ensuite la musique?
Alors, pionnier, moi, légèrement, pas vraiment, mais disons que j'ai dès l'arrivée des machines, je me suis mis dessus. Donc, les premiers ordinateurs Atari avec des prises MIDI, je me suis mis dessus, comme beaucoup de gens. Après, c'était juste l'idée de comment on peut adapter ça à la variété traditionnelle française sans la dénaturer, sans en faire quelque chose de spécifique. Il y a des gens qui sont allés beaucoup plus loin dans l'utilisation des machines, notamment la musique électronique, etc. Moi, c'était juste de mettre des parfums, des couleurs au service d'une chanson pop qui est de variété. Voilà.
Vous dites justement au service d'eux. Donc ces artistes reconnus que vous avez accompagnés, des artistes talentueux, aujourd'hui, ils achètent un service, parfois la location même de votre studio d'enregistrement, via aussi les maisons de disques. Comment, en tant qu'arrangeur, producteur, vous vous adaptez à ces personnalités, à leurs attentes?
Alors ça, je pense que c'est un truc qu'on obtient avec la pratique. C'est qu'effectivement, il faut arriver, d'user beaucoup de psychologie en amont, de savoir se faire une idée du personnage, quand on doit lui proposer soit des arrangements, soit de la réalisation, mais aussi quand on lui écrit des choses, des chansons, des textes, etc. On n'écrit pas pareil pour Johnny, que pour Céline, que pour Florent Pagny, que pour Garou. Donc à chaque fois, il faut essayer d'avoir une bonne idée précise de ce que la personne est capable de, non pas de chanter techniquement, mais de s'approprier au niveau de la musique, au niveau du texte. Donc ça, c'est un exercice assez sympa à faire. Et pas toujours aussi, on se fait jeter aussi beaucoup. Hein. Enfin, il y a des chansons qui ne marchent pas.
Ça suppose aussi de prendre du temps avec ces artistes, de les écouter, d'entendre aussi leurs errements parfois?
Ce temps-là, on ne l'a pas tant qu'on n'a pas rencontré l'artiste. C'est-à-dire qu'on le fait sur catalogue, d'ailleurs. On écoute ce qui a été fait avant, on essaie de voir un peu tout, de prendre le maximum d'infos sur eux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. On se fait une idée déjà par rapport à ce qu'ils ont déjà chanté. Et l'idée, c'est d'apporter quelque chose d'un peu différent de ce qui a été fait, tout en respectant ce qu'ils sont. On ne fera pas chanter, on ne fera pas swinguer François Hardy, c'est pas son truc. On ne fera pas du funk avec Jean-Jacques Goldman, parce qu'ils ne savent pas le chanter comme ça. Par contre, on va pouvoir amener, si j'ai envie d'amener un bagage de cornemuse sur du Goldman, je lui propose. Et en plus, il accepte, donc c'est bien. Voilà, c'est d'avoir des idées comme ça, être un réservoir d'idées, mais sans dénaturer la manière qu'ils ont, eux, d'apprendre la musique.
Ça suppose aussi un rapport de confiance.
Bah, ça, je pense, c'est la première chose. D'abord, quand on rencontre un artiste pour la première fois, on se renifle. Savoir est-ce que on va faire quand même quelques mois ensemble de travail, généralement, voire plus. Donc, okay, voilà, on se sent, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est confortable. C'est surtout l'artiste qui décide. Un réalisateur, il se met au service. Hein, c'est comme le service client, comme on parle ça. C'est le premier client, le deuxième étant le public. Mais c'est effectivement, est-ce qu'il va être à l'aise? Est-ce que psychologiquement, on va savoir comment il a besoin de chanter? Parce que n'oublions pas qu'un interprète, souvent, il met un peu tout son cœur devant un micro. Donc il faut qu'il soit à l'aise, là. Et rendre la personne à l'aise, c'est lui faire sortir le meilleur de lui-même. Donc il faut bien comprendre que s'il rentre dans un studio qui est toujours un endroit un peu froid, un peu tendu, parce qu'il y a une notion d'argent aussi, ça coûte cher, etc. Il faut vraiment mettre la personne tout de suite à l'aise, donc bien comprendre, est-ce qu'elle préfère être dans un endroit super aéré, éclairé, avec plein de monde, ou est-ce que c'est un endroit plus intimiste, où il faut tout fermer, il faut tout... Chaque artiste a ses propres... ses propres codes. Donc il faut apprendre ça vite. Il faut le savoir avant. Et puis après, quand on travaille avec des artistes connus, qui eux ont tout fait, tout vu, là il faut s'adapter à leur rythme. Par exemple, vous ne faites pas chanter deux fois Johnny ou Aznavour. Il faut arriver que ça soit prêt. On n'a même pas le droit de lui demander, il fait un test dans le micro. Donc il faut que ça, le micro soit bien réglé avant. Donc ça, un débutant, il est mort. Il croit qu'il y a un code habituel que font les autres. On règle la voix, on cherche un peu, quand c'est bien chaud, on y va. Ça ne marche pas comme ça avec des vieux qui ont tout vu, tout. Ils passent là, ils chantent, et à toi de te débrouiller après, quoi. Donc il faut être prêt pour ça.
Et avoir de sérieuses facultés d'adaptation?
Ben, je pense que l'adaptation, c'est la première qualité chez l'être humain. C'est effectivement, quel que soit le milieu, le métier, etc. C'est sûr que, bon, ceci dit, on fait beaucoup d'erreurs. C'est par les erreurs qu'on apprend. Ça m'est arrivé de faire des énormes bourdes parce que j'étais jeune, et voilà. Et puis après, on apprend, on utilise les machines comme il faut, on prévoit. Donc ça prend du temps. Moi, je fais des masterclass en ce moment pour expliquer justement aux gamins qui arrivent comment faire des arrangements, comment faire de la réalisation. Je leur raconte 35 ans d'erreurs pour éviter qu'ils les fassent eux au début, mais on apprend comme ça. C'est dans tous les métiers.
Vous parlez justement de digitalisation. Est-ce que, selon vous, le digital, ce serait un bon remède à la musique aujourd'hui?
Alors, il y a deux manières de le voir, à mon sens. C'est que le digital, effectivement, ça permet encore aux gens d'écouter des chansons, mais la musique, c'est un partage. Alors, c'est assez compliqué parce que si déjà pour la faire, on ne peut plus se voir, est-ce que la musique, ça veut dire chacun dans son coin va faire des choses pour ensuite les présenter? La musique, moi, j'ai commencé dans un groupe. Je suis resté 15 ans dans un groupe. Parce que la partie importante aussi de la musique, c'était la partager. Et d'abord, on la partage avec ses camarades. Chacun apporte tout ça. On s'émule, on se contredit. Et ça, pour arriver à sortir quelque chose. Quand on travaille en physique avec un artiste, tout ça, c'est pareil. On a son feedback tout de suite qui nous dit c'est bon, c'est pas bon. Donc, ça fait avancer les choses.
De l'interaction humaine naît la création, la créativité, etc. Le processus.
Oui, je pense que c'est partout pareil, dans n'importe quel métier. L'union fait la force, c'est sûr. On fait les choses mieux à plusieurs. Ça prend des fois plus de temps, mais in fine, c'est toujours mieux. Et donc là, le fait d'avoir fait des systèmes, des outils qui nous permettent dans sa chambre de faire des tubes, ça peut avoir un bon côté, mais ça a aussi une grosse limite. Et il ne faudrait pas qu'on perde cette espèce de sentiment de savoir qu'on voudra partager les choses. Alors maintenant, avec l'histoire du Covid, tout ça, effectivement, les scènes sont fermées, il y a une catastrophe qui se passe au niveau de... Les gens ne se déplacent plus, peut-être qu'ils vont perdre l'habitude de se déplacer. Comment peut-on remplacer ça? Alors, par la vidéo, évidemment, mais est-ce que les gens sont prêts à payer, enfin, avoir un modèle économique, aller voir des concerts en ligne alors qu'ils ont Netflix pour 14,99€ par mois? Quelle est la formule? C'est encore à trouver, mais je pense qu'il faudra quand même qu'au moins les groupes, les musiciens jouent ensemble. On ne pourra pas faire tout seul, séparé. C'est rigolo d'avoir des vidéos où il y a un qui a l'autre à Tombouctou, l'autre à Helsinki. C'est mignon, mais il y a une alchimie de groupe qui se passe quand on joue en live qui n'existe pas. Et ça, on ne peut pas le perdre. Donc il va falloir qu'on trouve des systèmes pour que ça soit quand même, au moins, que les musiciens soient en présentiel, qu'ils jouent, qu'il se passe, qu'il y ait de l'improvisation, qu'il y ait des choses. Parce que l'improvisation, on ne peut pas la faire quand on est en ligne, séparé et réassemblé après. Il se passe des choses, il se crée des choses quand la musique elle est jouée vivante. Et l'informatique, le système en ligne, il fait qu'on ne peut pas improviser. Chacun, parce qu'on ne joue pas ensemble. Alors, chacun va jouer sa partie pour que ça soit coordonné après. Comment on peut faire de la musique vivante quand on est éloigné? À moins que la technologie permette instantanément de pouvoir jouer en ligne sans délai et qu'on s'entende et qu'on joue ensemble. Alors là, pourquoi pas? C'est comme dans un studio où chacun est dans sa pièce, mais comme tout le monde a un casque, tout le monde joue en même temps, c'est synchro. Mais en ligne, pour l'instant, la technologie ne permet pas encore vraiment de jouer en direct. Il y a toujours un petit décalage dû aux problèmes informatiques. Et donc ça, c'est ça qui fait que la musique, pour l'instant, elle n'est pas encore... Pas encore live en ligne, quoi.
Si on prend l'analogie du docteur et du soin, est-ce que vous avez pu, dans votre carrière, apporter une forme de guérison à ces artistes, quelque part, et inversement?
Alors, tout à fait, en fait, curieusement, c'est que il y a des gens qui arrivent un peu amochés, ou plutôt que la musique est leur seul exutoire, ou leur seule raison de vivre, etc. Et ils ont besoin d'une aide, ils se fourvoient quelque part. Et effectivement, là, on peut dire qu'un arrangeur, un réalisateur, ça peut être un médecin, parce qu'il va les reguider, il va les recadrer, il va les remettre en confiance, etc. Ça, ça m'est arrivé assez souvent. Mais sinon, la plupart du temps, c'est plutôt je donne des vitamines, quoi. C'est comme un médecin qui file des fortifiants, parce qu'on amène un peu plus haut quelqu'un qui n'est pas forcément amoché, qui a déjà forcément des idées assez précises, mais on lui donne en plus des vitamines, des fortifiants pour qu'il aille ailleurs. Mais ça m'est arrivé effectivement d'avoir des gens un peu. Des artistes complètement un peu paumés, un peu détruits, qui ne savaient plus où y aller, et qui ont retrouvé une espèce de seconde énergie, parce qu'on les a reguidés dans la direction où il fallait, parce qu'on a su mettre le son qu'il fallait sur leur voix, parce qu'on a su habiller autour de ce qu'ils voulaient raconter, quelque chose de bien. Oui, ça fait un peu effectivement un docteur qui répare, ça peut arriver, oui.
Eric Benzi, vous avez peut-être vu le film MASH qui a été primé années 70 à Cannes. Film où on voit des médecins exercer une médecine d'urgence sur le front de la guerre de Corée. Donc ils sortent vraiment du cadre pour exercer. Est-ce que vous êtes sorti souvent du cadre des conventions pour accompagner ces artistes? Est-ce qu'il faut accepter de sortir de ce cadre pour justement innover, appréhender autrement, accompagner?
Je pense que c'est même un peu la clé de la chose. C'est-à-dire que quand on fait de la pop, il y a 12 notes, pour tout le monde. Il y a les accords, c'est souvent les mêmes, etc. Donc, on est un peu obligé de se forcer à sortir des mêmes. Alors, il y a des conventions qu'on est obligé, qu'on ne peut pas, des contraintes qu'on ne peut pas trop bouger. Par exemple, en radio, si on veut passer à la radio, si on fait un morceau de 8 minutes, on n'a aucune chance qu'il passe. Donc, ça, des contraintes, ça, on ne peut pas trop les bouger. Une autre convention, c'était à l'époque où on faisait des vinyles. Si voilà, on voulait avoir un son bon sur un vinyle, il ne fallait pas dépasser 18 minutes par face, sinon le son commençait à s'écrouler, dû à la contrainte technique. On pouvait avoir un album de 50 minutes, mais avec un son de merde. Donc si on ne voulait pas ça, il fallait, c'était des contraintes techniques. Mais après, artistiquement, c'est là au contraire où il faut s'éclater, il faut aller ailleurs. On a aussi la contrainte du public, qui est habitué à ce qu'un artiste chante de telle manière, on ne peut pas aller trop ailleurs. Donc il faut essayer de mettre des parfums, des sons un peu différents, pour toujours renouveler l'intérêt. Et donc ça, la convention, heureusement qu'il y a des gens non conventionnels qui ont poussé la musique, sinon on en serait toujours à faire des chansons comme dans les années 50. Heureusement que Kendrick a tordu sa guitare, heureusement qu'il y a eu un pic de créativité dans les années 70 où justement de la musique a été créée qui n'existait pas avant. En opposition à leurs parents, je ne sais pas, mais en tout cas il y a eu des sons qui ont été faits, des recherches dans la musique progressive, dans la musique planante, etc. Maintenant c'est plus du collage. Maintenant, il n'y a pas une grosse encore... Il n'y a plus de grosses inventions. Peut-être avec l'intelligence artificielle, on va arriver à trouver des choses un peu, des circuits un peu intéressants. Mais pour le grand public, il n'y a pas eu de grosse révolution depuis 20 ans. Ce qui est intéressant maintenant, c'est ça, c'est la manière dont on a de se nourrir de tas de choses différentes et d'arriver à les assembler, quoi.
Est-ce que ça suppose là aussi un exercice de synthèse, un petit peu, justement, dans ce mélange des genres ?
Mais c'est toujours un exercice de synthèse. Un métier d'arrangeur, c'est ce que j'explique quand je fais des masterclass, c'est d'abord apprendre à analyser tout ce qui se fait et mémoriser tous les plans qu'on peut avoir le maximum pour ouvrir son champ perceptionnel et avoir un réservoir d'idées pour pouvoir les mélanger. Et si j'ai envie de mettre du banjo dans un endroit où il n'y en a pas, il faut oser dire comment je vais le faire. Si je veux mettre des instruments bizarroïdes dans une chanson pop, il faut le faire. Il ne faut pas se limiter, sinon on n'aurait que des balades de guitare-bois, guitare-piano-voix. À l'époque, avant les synthés, avec tout ça, tous les morceaux étaient faits avec un orchestre, d'accord ? Toute la variété, donc c'était l'ingéniosité de l'orchestrateur d'utiliser les instruments traditionnels pour faire de la variété avec. À partir de maintenant, c'est tout ça, c'est ouvert, là, des samplers, là, tout ça, on peut faire n'importe quoi, on peut faire de la musique avec du bruit d'oiseau. Quoi. Et donc, c'est à nous, les créateurs, de pousser les limites, d'aller plus loin. Après, c'est toujours dans le respect que les gens qui écoutent les auditeurs n'ont pas de oreilles formées, donc ils ont besoin de repères. Donc, un repère, un couplet, un refrain, une mélodie sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Mais après, regardez ce qu'a amené le rap, etc., comment ça a transformé les choses, alors qu'au début, c'était une musique complètement underground, quoi. Donc, oui, c'est intéressant.
Le rap aujourd'hui, ce serait peut-être la nouvelle variété ?
L'urbain, en tout cas, oui, c'est ce qui a pris la place. Alors, le rap, le gangsta rap, c'est le rock, ça a pris la place de ça. Et l'urbain, c'est ça a pris la nouvelle place de. Alors, ça n'a pas pris la place de la variété, parce que, attention au public aussi, c'est pas la même chose. Les étudiants qui à l'école, ils aiment bien toujours des balades et des pop songs. Ça existe toujours. Mais en gros, le marché, des gens qui achètent, c'est maintenant les plus jeunes, enfin, qui achètent maintenant c'est qui cliquent.
Qui consomment ?
C'est ça, les consommateurs. Eux, ça s'est retourné beaucoup plus vers l'urbain. Alors, il y a toujours le rock qui existe toujours, mais ça devient une niche. Mais c'est le public le plus fidèle qui existe. Parce qu'on le voit au remplissement des salles, avant le Covid. Il y a toujours des salles pleines pour les gens qui aiment ça, c'est les amateurs, de quel que soit l'âge. Alors que c'est beaucoup plus volatile. Le public qui a entre 12 et 15 ans, il change vite. Voilà. Mais c'est vrai que c'est l'urbain, en ce moment, qui a tout pris.
Quid des radios, justement, concernant la diffusion ? On parlait de conventions, à force de conventions, de formats peut-être, on appauvrit aussi la musique.
Pour les radios, c'est spécifiquement, c'est que les radios ont toujours pensé qu'au fric. C'est normal, le mec il sort d'HC, ce qu'il veut c'est que ça tourne et qu'il y ait de la publicité. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans le sens du courant du public. Si le public a pas envie d'être éduqué, qui est le cas 90%, il prend ce qu'on lui donne, il réfléchit pas. Donc effectivement, il y en a un appauvrissement de la variété du mélange, parce que on va là où ça marche le plus, c'est ça, les jeunes écoutent ça. Mais bon, d'abord, maintenant, on ne consomme plus trop la musique par la radio. On la consomme, on va écouter sur YouTube, on a des Spotify, des Deezer. Et là, par contre, c'est très différent. C'est qu'effectivement, en cherchant un peu, on n'a pas du tout les mêmes playlists qu'on a à la radio. On a beaucoup de créations, mais il faut la chercher, parce que c'est noyé dans une espèce de beaucoup de choses mainstream comme ça. Alors aussi, pour beaucoup, pourquoi ? Parce que depuis que la musique s'est ouverte à des gens qui sont non-musiciens, grâce à la technologie, ben là, il y a toute une portion énorme de gens qui sont venus là faire de la musique aussi. Et donc après, pour trier le bon gain de l'ivoire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais alors, est-ce un bien, est-ce un mal ? Moi, je trouve que c'est toujours bien qu'un gamin, il fasse du rap ou de la dance music chez lui, plutôt que d'aller au café et fumer des joints en bas d'escalier. Par contre, musicalement, c'est sûr que c'est un peu frustrant pour des gens qui ont passé des années à jouer, tout ça. C'est-à-dire que maintenant, la musique, elle va être noyée dans une espèce de tas de choses uniformes. Et moi, j'ai appris un truc, voilà, c'est toujours un petit peu frustrant du point de vue du musicien. Mais il ne faut pas croire que la création n'existe pas. En cherchant sur... Moi, je trouve, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses encore, en fouillant sur Spotify, etc. Il y a vraiment de la création énorme. C'est juste qu'elle n'est pas dans le mainstream des radios. Les radios ne jouent plus le jeu. Elles jouent ce qui est le plus banal, le plus accessible, le plus facile.
Pour finir, deux questions. Eric Benzi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
D'améliorer mon handicap au golf, parce que là, je suis dessus. Non, mais j'ai une vie passionnante. Je remercie le ciel tous les jours de ce parcours-là. J'ai juste eu la bonne idée de naître à un moment donné où c'était encore la fin de l'analogique. C'était les 30 glorieuses du CD où il y avait beaucoup d'argent dans le milieu. Donc vous pouvez faire des beaux albums, faire des beaux voyages, aller dans des gros studios dans le monde entier. Et en plus j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes formidables et d'avoir des gros succès. Donc c'est inespéré parce que je crois que j'ai mon nom sur 31 millions d'albums. Ce qui ne se fera plus puisqu'il n'y a plus de CD. Donc je suis très très comblé pour ça. Et je vois la transformation qui se passe, et moi je pense qu'il faut un raisin positif. On peut toujours essayer de trouver maintenant comment on va faire pour pouvoir à la fois s'éclater, en vivre, ça va être de plus en plus dur. Ça va être de plus en plus dur, mais bon, on peut faire de la musique intensément, une passion, et puis avoir un plan B pour se nourrir. C'est pas un problème, quoi. Puis il y a des tas de choses aussi à côté qui sont intéressantes. Donc moi, oui, je me souhaite que ça continue, et puis merci le ciel.
Vous êtes ici au French Forum, invité d'honneur. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces... quelques jours?
J'ai surtout découvert plein de nouveaux métiers, des gens un peu de comment se passe un peu le back-office dans le monde de l'Internet, etc. C'est toujours très intéressant, on rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que c'est un autre monde. Il y a toujours des carrières, des parcours très intéressants d'hommes d'affaires, enfin de gens qui... de créateurs aussi, finalement, dans nos business, et qui ont plein d'idées. Et ça, je trouve ça super enrichissant.
Merci Eric Benzi.
Merci à vous.
Fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painful.